Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Elle est en studio. Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Oh là là, qu'est-ce que vous nous avez fait réfléchir et voyager lors de ces émissions de rentrée ? J'aime bien dire le mot rentrée, même au mois d'octobre, novembre, voilà. Parce que ça fait des pichés. Et puis, de toute façon, c'est toujours la rentrée. Hein. Quand c'est pas la Toussaint, c'est machin. Hein. Donc, bon, on est toujours plus ou moins proche de rentrée. Et ça nous fait. Remarque, c'est mieux peut-être le mot vacances que le mot rentrée. Mais bon, tout ça pour dire que toutes ces émissions que vous nous avez proposées jusqu'ici, depuis le début de saison de Nutri Radio, la quatrième saison d'ailleurs, incroyable. Maintenant, on va revenir sur des choses qui sont peut-être plus associé à la neuroscience directement sur le cerveau. Cerveau en surchauffe. Qu'est-ce que c'est au juste ce cerveau en surchauffe? On a l'impression qu'on l'a tout le temps. Ces derniers temps, alors, tiens, ça c'est intéressant. Petite digression avant même de commencer parce que Célia, on est nombreux là, dès que les vacances se terminent, on reprend et puis il y a cette espèce de fatigue de la rentrée. On a l'impression qu'on est déjà au bout de notre vie et que le cerveau justement il est en surchauffe. Est-ce que le fait d'être tout le temps sollicité par les écrans, les notifications, les machins, ça explique pas un peu qu'on est tout le temps fatigué, on se repose pas vraiment?
Alors totalement, c'est ce que nous allons voir justement dans l'émission justement sur le cerveau en surchauffe, c'est que cette sursollicitation que nous avons avec les écrans, les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc., etc., le fait qu'on n'arrive pas à déconnecter, ça va accentuer la surchauffe mentale, ce qui n'existait pas il y a quelques années. À l'époque, on allait travailler, on rentrait, mais une fois terminé. Que c'était terminé, c'était terminé.
Pour nous joindre, il fallait le faire quand même, c'est un vieux téléphone, et on répondait pas, et personne va enfin, vraiment venir jusque chez nous. Alors que là, non, ce n'est pas terminé. Je ne vais pas vous enlever le fil de l'émission que vous avez rigoureusement préparé. Et je vais donc reprendre, après cette petite digression, le programme en vous demandant déjà la définition de la surcharge mentale.
Alors, la surcharge mentale, c'est quoi? C'est lorsqu'on a trop de travail à faire. La première définition, c'était que la charge de travail était trop importante par rapport à ce qui... Enfin, elle était vraiment trop importante. On nous demandait trop à faire en trop peu de temps. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on sait que ça va un peu plus loin et c'est le fait que cette charge de travail va dépasser nos capacités cognitives, nos ressources cognitives. Parce que finalement, notre cerveau, il a des ressources cognitives, des ressources attentionnelles, des ressources, mais ce n'est pas un puits sans fond. C'est absolument pas le tonneau des Danaïdes pour ceux et celles qui ont suivi effectivement les émissions sur la mythologie. Bien au contraire. C'est-à-dire que dans une bouteille d'un litre, vous n'allez jamais faire entrer un litre et demi d'eau. Et là, ça va être pareil. Donc la surcharge mentale, ça vient quand il y a trop de travail à faire, trop de choses à faire. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ça concerne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, il n'y a pas forcément de profil type. Alors, il n'y a pas de profil type. Évidemment, les personnes qui sont très perfectionnistes, qui ont peut-être besoin de reconnaissance, qui veulent toujours en faire plus, qui ont l'impression qu'il faut que le travail soit bien fait, tout le temps bien fait, et qui veulent la perfection, peuvent peut-être être un peu plus sujets. Mais il n'y a pas de profil type dans le sens où ça peut toucher tout le monde. Le chef d'entreprise, ses collaborateurs, les managers, ses salariés... Les femmes ou les hommes au foyer, parce qu'il ne faut pas oublier que charge mentale, ce ne signifie pas avoir parfois des tâches à exécuter, mais c'est aussi des tâches à planifier. Le fait de devoir planifier la journée de ses enfants, de devoir planifier les repas, de devoir planifier un tas de choses à faire, même quand on est homme ou femme au foyer, ça peut aussi occasionner de la surcharge mentale. Maintenant, rajoutez à cela les personnes qui travaillent et qui ont une vie de famille. Surcharge mentale entre les deux vies, professionnelle et finalement personnelle. Donc tout le monde peut être touché, c'est ça qui va être important. Et il va y avoir aussi des facteurs déclencheurs. Alors les facteurs déclencheurs, on en a parlé il y a quelques instants, ça va être la surstimulation par les réseaux sociaux, par Internet, par les ordinateurs, par les mails, par les téléphones portables, etc. Le fait d'être tout le temps sursollicité. Le fait aussi qu'on nous demande souvent de passer d'une tâche à l'autre. C'est très mauvais pour les ressources cognitives. Parce que vous êtes en train d'effectuer une tâche, il va falloir passer à une autre tâche et revenir à la tâche. Donc on switch d'une tâche à l'autre. Mais quand on switch, ça nous bouffe, on va dire, beaucoup plus de ressources cognitives que si on fait une tâche après l'autre. Ça va être la mauvaise ambiance au travail. Ça va être parce qu'on se sent pas bien au travail, on n'a pas de, on s'entend pas avec ses collaborateurs, avec ses collègues. Ça va être parce qu'on fait le travail de deux ou trois personnes, parce qu'il n'y a pas eu de recrutement et que du coup on est obligé de faire son travail plus celui de la personne qui est partie peut-être en congé maternité, qui est partie, qui a démissionné, qui est partie à la retraite, etc. Ça va être aussi le manque de reconnaissance. Ça, c'est aussi un point important. Le manque de reconnaissance au travail qui peut jouer. Il y a toutes ces conditions, des facteurs déclencheurs qui vont faire que ça va venir peser sur les épaules d'une personne. Et parfois, c'est pas tant les tâches à effectuer, le nombre de tâches à effectuer. C'est plutôt la manière dont on nous demande de les faire. Le fait de ne pas nous laisser assez de temps. Le fait de nous interrompre continuellement. Ce sont des types de choses, des facteurs déclencheurs qui vont faire qu'à un moment donné, les ressources cognitives de notre cerveau vont être totalement dépassées. Et si elles sont dépassées, bien évidemment, on ne peut plus répondre à la demande. Donc le but, ça va être de savoir comment, évidemment, gérer, et je vous promets qu'il y aura une émission sur cela, comment gérer et éviter cette surcharge mentale, quelles seraient les stratégies à mettre en place justement pour ne plus se retrouver dans cette situation. Se prémunir de cette surcharge mentale. Mais vous le verrez, bien évidemment, nous le verrons ensemble dans une émission, bien évidemment, prochaine.
Alors, vous avez dépassé votre quota de bien évidemment. J'ai bien écouté ce que vous dites. On a tous des tics de langage. Donc, bien évidemment, le quota est explosé. Bien évidemment. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès. Sur Nutri Radio.
Ah, les tics de langage, c'est terrible. Est-ce que moi j'ai un tic de langage ? On est entre nous là. Je sais que des fois je réécoute, je dis, ah, mais tiens, mais je dis ce mot, mais comment je me rends pas compte que je dis ce mot trois fois en une phrase ? Ça, j'essaie de faire attention, mais bon, c'est pas évident.
Alors aujourd'hui, j'ai pas remarqué, mais c'est vrai qu'on en a tous et je pense que c'est machinal. En fait, une fois qu'on commence à dire un truc,
oui, ça nous revient
sans cesse. Voilà,
ça nous rassure.
C'est ça, je sais pas, même pas. C'est...
Aujourd'hui, ça va, mais c'est la semaine dernière. Je crois que vous avez dit, bien évidemment, en une minute, je crois que vous l'avez dit.
C'est
voilà,
possible.
Voilà, on est là, c'est bien, ça n'enlève pas le fond du discours et l'intérêt que nous avons à vous écouter, chère Salia, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je me permets d'ailleurs de vous le dire. Le cerveau en surchauffe, on attend avec impatience les petits tips et conseils pour voilà, nous enlever cette surcharge mentale. Vous nous avez bien expliqué ce que c'était. Maintenant, on va quand même, avant de venir aux solutions, alors ce ne sera pas dans cette émission, mesdames, messieurs, mais là, on est en train de disséquer tout le phénomène, c'est ça, hein, c'est la sphère neuro pour bien comprendre ce qui se passe. Quelles sont les conséquences organique et biologique de la surcharge mentale.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des conséquences organiques et biologiques, cette surcharge mentale, ça va créer des pathologies. Ces pathologies, ce sont tous les petits maux pour lesquels on va consulter un médecin. Des douleurs musculaires, raideurs dans la nuque, des migraines justement, des douleurs de dos, des reflux gastro-œsophagiens. Ça va être aussi une fatigue, on va se sentir fatigué sans expliquer pourquoi. En ce moment, je suis pas bien, je suis fatiguée, je dors mal, je suis plus sujet à des infections, j'ai mal partout, j'ai envie de vomir, j'ai des problèmes de transit, etc., etc. Voire même, effectivement, de diabète, d'hypertension artérielle, etc. Donc, on va consulter pour ces maux-là, sans savoir que peut-être, si on a ces maux-là, c'est dû à une conséquence, finalement, de cette surcharge mentale qu'on ne supporte plus. Effectivement, que la charge de travail est trop importante. Suite à cela, on va voir des modifications biologiques. Déjà, le taux de cortisol va être totalement modifié en situation de surcharge mentale, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de, finalement de faire un burn-out. Parce que finalement, la conséquence extrême de la surcharge mentale, c'est le burn-out. Burn-out où tout est effondré. Donc on peut mesurer cela objectivement par le taux de cortisol. Il faut savoir que le cortisol est l'hormone du stress. C'est logique d'en avoir, sécrété en situation de stress. Et c'est aussi le cortisol qui nous permet de nous lever le matin. C'est-à-dire qu'entre 7h et 8h le matin, le cortisol est à son taux le plus haut et le soir, il va diminuer. Ce qui permet effectivement que nous puissions nous endormir, etc. Puisqu'on sait qu'un fort taux de cortisol nous empêche de nous endormir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en situation de stress, on va avoir peut-être beaucoup de cortisol, un taux de cortisol élevé. Mais en situation de burn-out, on va avoir un effondrement du taux de cortisol, notamment le matin. C'est comme cela que les médecins, quand ils suspectent, on va dire, un burn-out, ils vous font faire une prise de sang du cortisol, notamment le matin vers 8 heures. Ils vous demandent de faire cette prise de sang-là pour vérifier comment est votre taux de cortisol. Alors évidemment, s'il est largement dépassé, on sait que vous êtes en situation de stress, que vous êtes stressé. Mais s'il est totalement effondré, on sait que c'est un burn-out, c'est un marqueur objectif de burn-out. Donc là, on va avoir effectivement ce taux de cortisol qui va être un marqueur biologique, un marqueur important, un marqueur objectif, effectivement, de cette situation-là. D'un autre côté, on peut mesurer l'activité cérébrale. Lorsque vous réfléchissez, votre activité cérébrale au niveau de votre cortex préfrontal s'active et s'active évidemment beaucoup. Lorsque vous faites un exercice de mathématiques pour les étudiants, lorsque vous résolvez un problème, lorsque vous montez une conférence, lorsque vous faites une réunion, lorsque vous tout simplement vous travaillez et que vous êtes concentré, effectivement que ça vous demande beaucoup de ressources, votre cortex préfrontal va s'activer et s'activer beaucoup plus que lorsque vous êtes en mode détente. Ce qui va se passer, c'est qu'en situation justement de surcharge mentale, on va avoir aussi une mesure objective, c'est-à-dire qu'on va avoir des modifications de cette activité-là. C'est-à-dire que l'activité au niveau du cortex préfrontal va être changée. On va donc avoir des répercussions, nous le verrons en troisième partie d'émission, des répercussions, j'allais dire, psychologiques, mais aussi des répercussions sur les facultés intellectuelles. Mais ce qui va se passer surtout, c'est que cette modification donc, va faire en sorte qu'on va être plus sujet à la récompense. Ça veut dire quoi ? C'est que d'habitude, grâce à notre cortex préfrontal, on lutte contre la récompense immédiate, c'est-à-dire qu'on arrive à la différer. Là, on va le faire de manière, on va pas réussir à le faire correctement, ce qui peut conduire à prendre de mauvaises décisions, parce qu'à prendre des décisions un petit peu sur le coup, peut-être de l'émotion. En tous les cas, je veux ça maintenant et tout de suite, sans avoir peut-être pesé le pour et le contre, parce qu'effectivement, notre activité cérébrale, à ce niveau-là, c'est effondré, il y a des problèmes d'activité cérébrale et ça s'enregistre au niveau, effectivement, de l'imagerie cérébrale. Donc, on voit bien qu'on a les maladies qui peuvent découler de cette charge mentale, les petits bobos du quotidien, mais aussi deux marqueurs objectifs, le taux de cortisol et aussi l'activité cérébrale au niveau, effectivement, de cette zone préfrontale et voir qu'on est moins sujet, effectivement, on est plus sujet, justement, on n'arrive plus à lutter contre son système de récompense et on lui répond beaucoup plus favorablement, ce qui conduit évidemment à des erreurs d'interprétation, des erreurs de prise de décision, puisqu'on est dans la difficulté à analyser la situation de manière pragmatique.
En tout cas, c'est voilà, cette analyse des niveaux de cortisol, si vous vous sentez concerné, allez-y, parce que ça pourra d'ailleurs vous aider à anticiper avant que ça s'aggrave et atteindre des points de non-retour. En tout cas, quand on arrive à ces points-là, pour s'en remettre, il faut un certain temps. Donc, faites ces analyses. En cas de doute, rapprochez-vous de votre professionnel de santé. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio. Allez, on va refroidir un peu votre cerveau. Pour tous ceux... Bon, de toute façon, les auditeurs de Nutri Radio, en général, ils ont un cerveau qui fonctionne bien et qui est souvent à la limite de... Ouais, de la surchauffe, même si je réfléchis en même temps, parce qu'on a quand même beaucoup de professionnels du bien-être qui nous écoutent. Mais en même temps, les cordonniers sont aussi les plus mal chaussés. C'est que c'est les gens qui travaillent beaucoup, énormément. On est des travailleurs. Oh, la team. Vous êtes tous partie de la team. Et Célia Morès nous parle donc de ce cerveau en surchauffe. Qu'est-ce que c'est exactement, avant d'aborder dans d'autres émissions des astuces très pratico-pratiques pour faire baisser la température? Vous nous avez expliqué déjà ce qu'était la surcharge mentale. Vous nous avez rappelé aussi les conséquences organiques et puis l'intérêt de se faire un petit bilan sanguin pour analyser les taux de cortisol qui, voilà, le matin très tôt, là, peuvent indiquer qu'on a un taux de... Voilà, qui, c'est comment on est, vous avez dit, effondré.
Ils ont tendance à être effondrés.
Taux de cortisol effondré, là, on va dire. Vous n'êtes pas bien.
Pour c'est le dire ça. De manière un peu plus vulgarisée que ne le dirait un médecin.
Voilà,
mais
vous avez raison,
effectivement, mais... en fait, il y a des références et puis en dessous d'un certain seuil, le médecin va pouvoir interpréter, seul médecin peut interpréter ou effectivement le médecin, le biologiste qui fait les analyses et voir que là, il est tellement bas le taux de cortisol que c'est... on va dire, rouge.
Ah oui, ça clignote.
Voilà. Donc, ça clignote rouge, voilà.
Ça clignote, ça clignote. Ça clignote, bon, ça clignote. Moi, je crois que je l'ai eu, hein, ça, franchement. Quand on travaille beaucoup, même si c'est... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même quand c'est quelque chose... Alors, quand c'est une tâche que l'on fait qu'on n'aime pas et qu'on travaille beaucoup, bon, là, c'est sûr qu'on y va tout droit. Mais même quand on pratique une activité avec passion, quelque chose qu'on aime, si on surcharge, on n'est pas à l'abri de ça.
Totalement. Et c'est vrai que moi aussi, je pense que j'y étais soumise parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a envie de s'engager dans beaucoup de projets. Et effectivement, pour s'engager dans beaucoup de projets, ça nous demande de switcher de l'un à l'autre. Et parfois, dans la même journée ou dans la même heure, on fait un truc et puis on coupe, on revient, on coupe, on revient. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué parfois à gérer. Et même quand on aime, bah, on n'est pas à l'abri justement de se dire là, j'en peux plus, j'en fais trop. Et c'est vrai qu'en plus, malheureusement, je vais les dire, ou heureusement, enfin, on a des projets intéressants, mais ça peut arriver que ça arrive tout en même temps. C'est-à-dire que c'est pas et qu'il y a des périodes de plus creux où il y a moins de choses à faire. Puis sinon, ça arrive en même temps, la même période. On décide de tout gérer et il y a des moments où ça passe plus.
Où ça craque. Et justement, quelles sont les conséquences psychiques et intellectuelles ?
Alors, au niveau des conséquences psychiques, c'est vrai que généralement, les personnes vont avoir une lassitude. C'est-à-dire, typiquement, tout ce qui nous faisait envie, tout ce qui vous faisait envie, bah, ne vous font plus envie. Vous avez plus envie de... Vous êtes plus motivé. Ben non, j'ai plus envie. Ça me saoule. J'ai pas envie de le faire. En fait, ça va être tout ça. Même des sorties avec des amis, hein, ça va avoir ces conséquences-là. Même des choses que l'on faisait de manière extra-professionnelle. On a une perte d'envie, une lassitude. On est indifférent à ce qui peut se passer. Une indifférence totale. Ensuite, évidemment, du côté plutôt, j'allais dire, intellectuel, on va avoir une forte diminution, on va dire, des facultés intellectuelles. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à prêter attention, à faire attention, à se concentrer. La concentration deviendra de plus en plus pénible. Mais la moindre chose va vous déconcentrer. Alors, déjà, on est tous facilement déconcentrables. Hein, c'est vrai qu'on a tendance, même si on se concentre, etc., forcément, s'il y a des bruits environnants, s'il y a quelque chose qui se passe dans la pièce à côté, lorsqu'on travaille, quand on est au bureau, ça peut nous déconcentrer, c'est normal. Mais là, ça va devenir intolérable, c'est-à-dire que ça va nous empêcher de nous concentrer à tel point qu'on ne pourra pas faire le travail, mais en plus nous énerver. Alors typiquement, ça peut être votre collègue qui fait clic-clic avec son stylo parce que il ouvre, enfin vous savez, les stylos à clic, voilà.
Ah clic, oui, clic, on n'entend voilà. Que ça.
On n'entend que ça. La personne qui va vouloir, parce qu'elle a imprimé son document et qu'il faut qu'elle stabilote dessus, je ferme, j'ouvre mon stabilo, donc il n'y a rien de plus embêtant et de plus dérangeant que cela, notamment lorsqu'on est en charge mentale et qu'on ne supporte plus aucun bruit et qu'on va se déconcentrer, parce que ces petits bruits-là vont nous déconcentrer. Ça peut être les voisins qui vont marcher au-dessus, ça peut être une chasse d'eau si on entend la chasse d'eau, tout ce type de choses qui va déconcentrer.
Ça peut être quelqu'un, vous savez, il y en a, hein, quand on mange, j'entends ta bouche qui mâche.
Ça, c'est effectivement très agaçant, même déjà quand on est pas en surcharge mentale.
Sans charge mentale, c'est agaçant.
Ah oui, ça c'est les personnes qui font du bruit comme ça, c'est particulièrement agaçant, mais en plus quand on est en surcharge mentale, on supporte plus rien, et notamment au niveau de la pièce où l'on travaille, si on a des collègues qui font des petits bruits, parce que justement ça va nous empêcher de nous concentrer.
Peut-être les odeurs aussi.
Les odeurs, nous déconcentrer, totalement. Ensuite, évidemment, on va avoir une baisse des facultés justement de mémorisation. Étant donné qu'on va moins prêter attention, on va moins encoder les informations et on va moins les mémoriser. Alors, ça peut avoir des conséquences parce que si votre supérieur vous demande d'envoyer un dossier rapidement, un contrat rapidement à un client et qu'on oublie de le faire, que vous oubliez de le faire, ça va avoir des répercussions. Donc, ça peut être aussi d'oublier son enfant à l'école ou d'oublier de lui signer un papier pour qu'il puisse faire sa sortie scolaire. Donc, il va avoir des difficultés de mémorisation. On va avoir du mal à acquérir de nouvelles informations, à apprendre. Donc, ça va avoir aussi, bien évidemment, des conséquences. Ça va se ressentir au niveau du travail. Et ça va avoir tout cela des conséquences sur la prise de décision. On va avoir effectivement du mal à analyser une situation pour prendre une bonne décision, parce que si on n'arrive pas à mémoriser correctement les informations, comment les retenir pour pouvoir les analyser? Parce que pour analyser une information et savoir ce que l'on va en faire, il faut pouvoir l'avoir mémorisée, du moins dans un laps de temps nécessaire à cette analyse. Et si on a du mal à se concentrer à le faire, on ne pourra pas le faire. Donc ça va conduire évidemment à de mauvaises prises de décision. Alors ces mauvaises prises de décision peuvent être plus ou moins graves, ça dépend des métiers que l'on fait, mais ça peut avoir des répercussions importantes. Donc évidemment, ces mauvaises prises de décision vont conduire à quoi aussi ? À faire des erreurs. Donc imaginez dans certains métiers des erreurs que cela peut, que les conséquences des erreurs. C'est pas forcément chez les médecins, chez les traders, chez les personnes qui jouent même dans les entreprises avec des millions d'euros, mais ne serait-ce qu'un ouvrier à la chaîne, si je puis dire, bah, qui va devoir utiliser sa machine, s'il est fatigué, qui fait une erreur, bah, il va avoir un accident du travail. Il peut se couper un doigt. Son collègue peut tomber du toit parce qu'il n'aura pas fait attention, il n'aura pas mis son casque comme il fallait, ou il n'aura pas vu que là, il fallait passer par ce chemin-là et pas par l'autre, etc., etc. Donc, tous les métiers, tout le monde est concerné. Un manque d'attention, un manque de mémorisation, un problème dans la prise de décision va conduire à faire des erreurs d'interprétation. Et ces erreurs d'interprétation peuvent avoir des conséquences dramatiques aussi bien sur soi, dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, mais aussi sur l'entreprise. Parce qu'une entreprise peut, à l'extrême, peut-être faire faillite. Donc ça, c'est vraiment un type de problème. Donc là encore, il faudra lutter contre cela pour éviter que cette surcharge mentale ne vienne perturber notre mode de fonctionnement. Parce que là, à ce moment-là, on ne peut plus fonctionner correctement. On ne peut plus faire son travail correctement puisqu'on ne peut plus être attentif. On ne peut plus répondre à la demande. Et les conséquences ultimes, ça peut être effectivement, je parlais de faillite de l'entreprise, mais ça peut être la perte du travail, voire un accident effectivement beaucoup plus grave de travail et pire encore, suivant les métiers que vous exercez ou que l'on exerce.
Oui, ça peut être aussi, c'est le genre de période où il ne faut pas prendre des décisions, y compris personnelles. Genre, tiens, je vais déménager, tiens, je vais me séparer, tiens, je vais faire un enfant, tiens, il y a des décisions, on peut s'abstenir.
Effectivement, il va falloir parfois remettre certaines décisions pour justement, lorsqu'on sent que ça ne va pas, éviter de prendre une décision sous le coup de l'émotion ou alors ne pas avoir traité les informations qu'il fallait traiter et avoir les tenants et les aboutissants, en tous les cas d'avoir analysé les conséquences de notre prise de décision parce que généralement, c'est ce qu'on fait, on analyse les conséquences et on choisit les conséquences qui sont les meilleures pour nous ou en tous les cas les moins mauvaises, tout dépend évidemment des situations.
Bon, quelle est la pire décision de votre vie que vous ayez prise?
La pire décision de ma vie.
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Eh bien alors, le problème, c'est que là, je n'ai pas d'idée comme ça. C'est ça qui est embêtant.
Ben non, vous avez le droit d'avoir jamais pris aucune mauvaise décision. Si, ça m'est... Enfin, pas des mauvaises, mais pas... enfin, en tout cas, pas des... Voilà.
Alors, ça m'est arrivé de prendre de mauvaises décisions. De là à me dire, c'est la pire de ma vie, là actuellement, comme ça, non, je ne.
Bon, ça va, c'est rassurant, c'est à venir, ça veut dire. Non, pas du
c'est
tout.
C'est peut-être à venir, ou alors c'est peut-être parce que justement, ma mémoire les a occultées tellement c'était une mauvaise décision et que.
Ah oui, vous avez préféré
l'oublier. Les psychanalystes diraient que j'ai relégué ça dans l'oubli, justement, pour pas avoir à m'en souvenir.
Eh bien, c'est peut-être la meilleure chose à faire. En tous les cas, merci beaucoup, Célia. Merci vraiment énormément pour prendre le temps chaque semaine de venir nous expliquer cela avec passion. Parce que là, vraiment, quand vous nous... Ah, je vous ai là maintenant, mais les yeux comme ça plongés dans ce que vous dites. Et des gens passionnés, ça fait plaisir. Et c'est, on s'entoure de ça sur Nutri Radio. Et j'espère que vous le ressentez aussi, chers auditeurs. Si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Un petit mail à nutriradio.fr dans la partie contact. En précisant le nom de l'émission, en l'occurrence ici la Sphère Neuro, émission à réécouter ce dimanche à partir de 18h. Au revoir Célia.
Au revoir Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous.
La Sphère Neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.